SIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 22 au 24 septembre 2022, au Grand Palais éphémère Champ de Mars à Paris, sur Carbone Zéro la radio.
Nous sommes toujours en direct du Grand Palais éphémère, deux pas de la Tour Eiffel, sur Carbone Zéro, la radio. On est ravis d'accueillir sur le plateau Marc Verrecchia. Bonjour Marc.
Bonjour.
Président du groupe éponyme, groupe Verrecchia, spécialiste de la pierre, on va voir ça dans un instant.
Tout à fait.
Et à vos côtés, Franck Matisse. Bonjour Franck.
Bonjour.
Franck Matisse, notre PDG, Matisse Construction Bois. Et vous, c'est le bois. Et pourquoi on vous a réunis? Tout simplement parce que vous avez décidé de vous allier, une alliance inédite entre le groupe donc Verrecchia et Matisse Construction Bois, un partenariat exclusif pour concevoir un système qui mêle la pierre de taille, le bois, afin notamment de répondre aux exigences de la RE 2020, on le comprend bien, et aussi peut-être aux grands enjeux de ce salon, le SIPCA, l'immobilier bas carbone. Expliquez-nous à Marc Verrecchia votre rencontre.
Écoutez, nous, on était vraiment effectivement spécialistes de la pierre de taille depuis des dizaines d'années. On avait compris que notre matériau, il était bas carbone, bien évidemment, sur les façades, parce qu'il a une inertie telle qui permet aujourd'hui les enjeux du réchauffement climatique, enfin un certain nombre de choses, de la durabilité dans le temps, était pour nous une évidence sur l'extérieur. Et on s'est dit, il faudrait qu'on aille un peu plus loin et qu'on mette le bon matériau au bon endroit. Et pour nous, le bois, c'est la structure, c'est l'intérieur. Et on a cherché effectivement à s'associer. Et puis mes équipes m'ont dit, il faut qu'on trouve un vrai constructeur bois. Donc sous la houlette de Jean-Michel Villemotte, on a été présentés, Franck et moi. Mmh. Et puis ça a fait match d'entrée parce qu'on est, deux entrepreneurs. Et l'évidence de ces deux matières nous a paru comme quelque chose de révélateur. Alors moi, j'avais bien idée, bien sûr, de cette alliance et on cherchait et puis on a trouvé le même écho et puis surtout deux entrepreneurs qui sont passionnés, ouais, chacun dans sa partie.
C'est ce qu'on appelle le fit, il faut que ça, que ça matche, beaucoup d'anglicisme, en tout cas que ça coince, ça colle avec vos deux personnalités aussi. Franck Matisse, avant justement de décider cette alliance, vous connaissiez, vous étiez rencontrés, vous vous observiez ou pas du tout?
On se connaissait absolument pas du la tout, pierre d'accord. de taille pour moi c'était un univers
un autre
qui
monde.
Était un autre monde, puisque moi je suis plutôt inscrit dans la filière sèche et dans l'évolution du bâtiment. Donc, c'était vraiment très, très loin de moi. Et donc, effectivement, on s'est retrouvés autour de... C'était un coup de fil, un samedi matin. Je ne devais pas être très bien réveillé. Et puis, j'avais la collaboratrice de Jean-Michel Villemotte qui m'appelait en me disant « Franck, j'ai quelqu'un de très bien à côté de moi. Il faut absolument que vous parliez. » Et donc, on a commencé à discuter. Alors, le temps que j'atterrisse un petit peu et que je mesure les choses, je me suis dit « Mais c'est bien sûr. » Et donc...
Mais est-ce qu'il y avait déjà une idée de projet? Vous cherchiez des alliances?
Non, on n'avait pas.
C'était une intuition.
Oui, moi, c'était vraiment quelque chose. Si vous voulez, le bas carbone, pour atteindre le bas carbone et savoir le dépasser, et vous parliez de 2020 aujourd'hui, on voit bien que l'alliance des deux matériaux dépasse largement 2025, voire 2028, tant sur le réchauffement que sur les qualités environnementales et les qualités des matériaux. Et l'idée pour moi, c'était vraiment d'aller plus loin. Vous voyez, c'est vraiment de dépasser. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans l'opposition des choses, je suis plutôt dans l'addition des choses. Donc, ça me paraissait évident que deux matériaux nobles de grande qualité qui répondent à ces enjeux-là puissent s'associer.
On a l'impression justement que depuis quelques années, on a une forte accélération. On témoigne d'ailleurs ce premier SIPCA, un salon de l'immobilier bas carbone, une grande réussite. On le dit encore aux auditeurs parce que c'est vrai que depuis ce matin, il y a vraiment une très très forte affluence pour ce premier jour. C'est plus que dans l'air du temps aujourd'hui. On a l'impression que ça devient incontournable pour les promoteurs.
Oui, alors moi déjà, je suis ravi. Ce matin, quand je suis arrivé, j'ai été vraiment surpris par le nombre de personnes qui étaient là pour une première. Et tous les gens que j'ai croisés dans les allées sont des gens qui sont des acteurs importants de la construction en France. Et on voit qu'ils sont en train de faire cette mutation. Et je trouve qu'elle va relativement vite. Alors, le sujet, effectivement, qu'on évoque, c'est le bas carbone. Ça me paraît... Tout le monde a compris qu'il fallait effectivement travailler là-dessus. Et ce que le projet dont Marc a eu l'intuition peut amener, c'est qu'en même temps, on va donc travailler sur la filière bois et l'utilisation du bois. Et en utilisant le bois, on ne va pas seulement régler le problème du carbone, puisque le bois est stock du carbone, mais aussi on va travailler sur la biodiversité, qui est l'autre grand sujet de l'époque. Parce que faire les économies de carbone, c'est une chose, c'est sur le climat à long terme et sur le changement climatique. Mais la biodiversité, on se rend compte que c'est un sujet très immédiat. Donc là, je pense qu'on s'inscrit dans une approche beaucoup plus holistique du changement climatique et de ses conséquences pour la vie des gens, mais de façon assez immédiate. Hein. Mmh.
Tout à fait. Et puis, je pense qu'effectivement, on parle bas carbone, mais effectivement, c'est aujourd'hui une grande révolution pour les architectes de travailler par rapport à une matière et pas juste par rapport à un objet, ce qui est quand même important, puisqu'il faut prendre ça en compte. Et puis, c'est pour ça que je voulais un entrepreneur avec moi. Je pense qu'on cultive la matière, mais on cultive aussi le beau. Mm-hmm. Parce que le bas carbone n'est pas seulement obligé d'être une réponse technique ou une réponse à l'environnement. Il faut que ce soit beau. Et le fait d'avoir la pierre de taille en extérieur et le bois à l'intérieur nous permet, avec les architectes, de retravailler une architecture contemporaine, puisque je rappelle que la pierre est un matériau de construction comme le bois et pas un style architectural. Donc tous les architectes sont ravis, et notamment Jean-Michel, sous sa houlette, où nous avons un projet de 28 000 m2 qui est à Rosny-sous-Bois que l'on va développer avec des émergences à 50 mètres de haut sur ce triptyque bois, pierre et beau.
Bois, pierre et beau, on le souhaite effectivement. Chez Matisse, on travaille aussi pour les JO. Ça se prépare et pas très loin d'ici d'ailleurs.
Voilà, alors non seulement c'est pas très loin d'ici, mais je vous rappelle que vous êtes sous un bâtiment Matisse, puisque le Grand Palais éphémère a été fait par Matisse. Et je suis content qu'il se passe beaucoup de choses dedans, et plus ça durera, mieux ce sera. Donc effectivement, nous travaillons sur les JO. On a eu la chance d'avoir plusieurs. On a travaillé pour aussi. La chance d'avoir plusieurs projets sur les JO. Donc on fait actuellement la piscine olympique à Saint-Denis. On fait l'aréna aussi, qui est porte de la Chapelle. Une partie du village olympique. Et puis on a travaillé sur le siège du COJO. Enfin voilà. Puis on va faire la piscine Georges Valeret, qui sert aussi à l'entraînement des JO. Donc on a effectivement plusieurs projets. Et puis le Grand Palais éphémère, il fait partie des JO. Hein, il accueillera des épreuves. Donc on est plutôt content de cet enchaînement de projets. Mais surtout, ce que ça traduit, c'est surtout une petite révolution dans le monde de la construction. C'est-à-dire qu'on est en train de passer, effectivement, sur du bas carbone, etc. Mais aussi, on est en train de passer sur la filière sèche, hein, parce que la piscine olympique, c'est une piscine, on part du béton, mais on fait toute la structure en bois. C'est vraiment un bâtiment complètement en bois. C'est pas juste quelques poutres en bois. Donc, on va dans un sujet de filière sèche et on construit relativement vite. Et
ça, pour les JO, filière sèche pour une piscine. Expliquez-nous juste pour les non-initiés, filière sèche, c'est quoi? Alors, ça veut dire que par rapport au béton.
Filière sèche, alors si vous voulez, le béton, sauf s'il est préfabriqué, mais globalement, le béton est coulé sur place.
Oui.
Et donc, filière sèche, c'est de l'assemblage de composants qui ont été usiné ou fabriqué ou prélevé comme la
comme
la pierre
construit dans vos usines, donc je crois que c'est du côté dans le Bas-Rhin,
c'est à Strasbourg, oui. Et donc que ce soit d'ailleurs pour la pierre ou le bois, on est dans de la transformation à façon et on arrive sur le chantier, on fait de l'assemblage par moyen mécanique, et donc c'est des chantiers qui sont globalement très rapide à monter.
Et avec beaucoup moins de nuisances.
Effectivement, très peu de nuisances. Il y a en gros entre 6 et 8 fois moins de camions que sur un chantier normal. Donc on est quand même beaucoup plus confortable là-dessus. Et surtout la vitesse de construction.
Voilà. Marc essaye d'intervenir depuis tout à l'heure.
Parce que je suis tellement d'accord avec ce que dit Franck. Et je rajouterais encore en plus, c'est que nous, justement, on cherchait à gagner du temps sur les chantiers. Et ce qui nous freinait, c'était effectivement les temps de coulage béton et qui sont importants sur le chantier. Alors que nous aussi, la pierre de taille est une véritable filière sèche. Mm-hmm. Nos carrières partout en France, mais notamment autour de Paris, à 30 ou 40 km. Hein, c'est Colbert qui nous avait donné le chemin. Il y a plusieurs siècles, et aujourd'hui, vous voyez, de ce matériau oublié, on en a fait un matériau d'avenir, et on est également aussi filière sèche, parce qu'on est très court, on est hors site, et on arrive de la même manière que le bois sur le chantier. Donc on cherchait à gagner du temps sur le chantier, le fait d'associer ces deux matériaux, eh bien on va les additionner non seulement sur le temps, sur la facilité, sur la filière sèche, mais également sur la réponse d'avenir. Vous parliez de l'ERE 2020, aujourd'hui on est avec ces deux matériaux-là, on est déjà au-delà de la RE 2025 et on travaille avec nos ingénieurs et nos cabinets à nous en interne, puisqu'on a une cellule d'ingénieurs qui sont calés là-dessus pour 2028 et voire plus.
J'ai une question pratico-pratique, messieurs, pour ceux qui nous écoutent, ils sont nombreux et ils sont souvent assez séduits par ces nouveaux matériaux. Est-ce que, quand on parle pierre de taille, quand on parle bois, est-ce qu'il y a un surcoût, même si alors, on sait qu'on va avoir ensuite un rattrapage peut-être au niveau des flux ?
Alors, on va vous répéter plusieurs choses, mais je vais parler déjà pour la pierre. Déjà, la pierre de taille, elle redonne, pour nous, au logement neuf, ou en tout cas au bâtiment neuf, un véritable caractère patrimonial. Donc, si vous voulez, c'est pas juste le prix que ça coûte au départ, c'est le temps que les gens vont investir, tant l'État que les collectivités que le particulier, qui va s'y retrouver sur la longueur.
Sur du temps long.
Sur du temps long. Après, comme le disait Franck, et je pense qu'on va pas parcourir les choses, l'intérêt que l'on a, c'est qu'on est propriétaire ou actionnaire ou partenaire de nos carrières, ou en tout cas de nos filières bois. Donc si vous voulez, on a beaucoup moins d'intermédiaires qui sont sur, évidemment, ce matériau et sur le temps de construction, ce qui permet bien évidemment d'être beaucoup plus rentable. C'est tout l'intérêt.
Il n'y a pas de cumul de marge, si vous voulez, puisqu'on est, on est producteur et constructeur. Quoi.
Promoteur, constructeur.
Et promoteur, bien sûr.
Du coup, ça va faire plaisir au gouvernement. Tout est en France.
Absolument. Absolument. Et l'avantage que l'on a, c'est qu'on a des produits français, qu'on a un savoir-faire français, que nous sommes des industriels aussi, hein, on peut dire ça aussi. Donc ça veut dire que ça marche. Hein. Mais le gros intérêt, c'est qu'on a une certaine autonomie sur la matière première, donc pas de pénurie au niveau de la pierre de taille. Hein. Et le bois, aujourd'hui, Franck le maîtrise de mieux en mieux sur la France et l'étranger, il en parlera mieux que moi. Mais c'est le gros intérêt, vraiment le gros intérêt. Et puis la fierté aussi de construire français.
Ouais. Non, mais c'est très important. Enfin, je pense que ça sera valorisé effectivement de plus en plus. Franck, une question. Effectivement, ce bois, est-ce que ça permet aujourd'hui, cette filière bois, de construire à l'échelle ? C'est-à-dire, on sait qu'on est structurellement là, en pénurie de logements, qu'il faut accélérer. Est-ce que le bois peut permettre de résoudre cette équation ?
Alors, si vous pensez aux pénuries de matériaux ou aux disponibilités de matériaux, la forêt française, faut avoir, et c'est vrai en Europe d'ailleurs, c'est pas spécifique à la France, mais en gros, on récupère à peu près, on récolte la moitié de la pousse annuelle. Donc, si vous voulez, on a plutôt des forêts qui vieillissent que des forêts qu'on épuise. Hein. Donc ça, c'est quand même une crainte qu'il faut lever. On a vraiment le problème inverse, c'est qu'on ne prélève pas assez sur la forêt. Quoi. Donc ça, c'est plutôt positif. Et c'est vrai que c'est un matériau, en tout cas une technique de filière sèche qui permet d'avoir des usines qui produisent. Et dans une usine, on maîtrise quand même les choses, on maîtrise les temps de cycle, etc. Donc on est capable, effectivement, de produire à grande échelle. Et la compétence qu'on n'a plus forcément sur les chantiers, dans une usine, au bout d'un moment, vous répétez sans arrêt les mêmes productions, vous avez des machines.
Donc on a des économies d'échelle.
Donc il y a des économies d'échelle, et plus une machine tourne, plus elle est productive, et donc on arrive vraiment à résoudre un sujet comme celui de la vitesse de construction et du marché, de l'attente des marchés. Quoi.
La chose aussi qui est importante, c'est que quand on visite nos sites, on voit qu'on fait, on est bien sûr industriel, mais on est aussi sur le sur-mesure. C'est-à-dire qu'on est capable de s'adapter à la commande, on peut faire des choses vraiment particulières. Et le gros intérêt d'avoir cette alliance bois-pierre, pour moi, c'est l'architecture, vraiment. C'est une architecture retravaillée, c'est-à-dire qu'on peut être très créatif sur l'architecture parce qu'on pourra la suivre. Ce qui n'est pas forcément vrai si on prend tout bois ou tout pierre.
Est-ce que, dernière question, cette alliance bois-pierre va vous permettre d'être plus performant, d'être peut-être dans des appels d'offres, d'avoir ce double avantage finalement?
Alors, je vais répondre un petit peu à ça. On a répondu à des appels d'offres, et le fait est, c'est que je pense que c'est assez performant puisqu'on est au second tour de tous les appels d'offres avec lesquels on a répondu avec Franck. Donc on est toujours dans les tertiaires ou dans les cinq derniers. Dans les cinq premiers, on va dire ça plutôt ça, avec vraiment une grande curiosité, une grande appétence, parce que tout le monde ressent que cette alliance elle n'est pas originale, elle est évidente.
Voilà en tout cas ce qu'on peut dire de cette alliance. Voilà, Verekia Mathis, Marc Verekia, président du groupe Verekia, Franck Mathis, PDG de Mathis Construction Bois. C'était un plaisir de vous accueillir un peu chez vous, du coup, Franck Mathis, hein, puisqu'on est dans ce grand palais éphémère.
Vous pourrez revenir.
On pourra revenir. Non, mais c'est vrai que c'est très agréable. Tiens, c'est prévu pour combien de temps ?
Normalement, c'est l'éphémère qui s'arrête après les JO, quoi, en fait.
Après les JO.
Voilà. Au moins un an après, ou deux ans peut-être, mais normalement, c'est ça. Enfin,
je dirais qu'on n'est pas loin de la Tour Eiffel. Elle était éphémère aussi.
La Tour Eiffel était éphémère.
Elle est toujours là.
Elle est toujours là.
1889, 2022. Et ça continue.
Et quel plaisir d'être à côté de cette Tour Eiffel. Merci beaucoup, en tout cas.
Messieurs, à très bientôt sur Carbon Zéro, la radio.
Merci.
SIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 22 au 24 septembre 2022 au Grand Palais éphémère Champ de Mars à Paris sur Carbone Zéro la radio.